Eléa, ce matin, vous recevez un dessinateur montagnard également.
Dessinateur, peintre, sculpteur, auteur de BD. Bonjour Jean-Marc Rochette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un animal, un livre et une saison, vous seriez quoi ?
Bah, l'animal, c'est un chamois. C'est pas très étonnant parce qu'en fait, je les ai toujours autour de chez moi. Je les regarde par la fenêtre. Et puis, c'est un animal qui a beaucoup de grâce en montagne et qui a un pied extrêmement ferme. Je l'envie.
Un livre,
alors c'est le dernier que j'ai lu, c'est L'ours qui danse d'une amie, Simonetta Greggio. Ouais. C'est un Inuit qui est devenu prof d'université et puis qui veut retourner dans le Grand Nord, à tel point qu'il veut retrouver l'arc de son grand-père. Et il se passe quelque chose avec un ours, c'est absolument merveilleux.
Ça ressemble un peu à votre livre, on va en parler sur le retour à la montagne. Et si vous étiez une saison ?
Le printemps, mais en particulier la débâcle, hein, c'est-à-dire le moment où le débâcle, c'est le moment où la glace rompt.
Ouais.
Et chez moi, je vois bien les lacs sont tous pris par la glace. Et pour moi, le printemps, c'est quand ça lâche, quoi. Je vois l'eau à nouveau.
Et il y a quoi,
je sais que c'est le printemps qui arrive. Ici, on a un printemps très tardif. Par exemple, chez moi, là, il y a beaucoup de neige encore, des avalanches. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir planter, parce que je fais un peu d'agriculture de montagne. Donc
on va parler de tout ça. Mais Jean Giono écrivait « J'ai toujours détesté la foule. J'ai constaté qu'il y a moins d'imbéciles à 3000 mètres d'altitude qu'au niveau de la mer. Rien ne me prédispose plus au bonheur que les avenues qui entrent dans les Alpes. » Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, bah surtout qu'à 3000, il n'y a plus personne, pratiquement. Donc, c'est un fait, c'est factuel. Hein. Donc, imbécile ou intelligent, il n'y a plus personne à cette altitude.
La nature, le grand air, les grands espaces, les montagnes sont au cœur de votre œuvre, Jean-Marc Rochette, que ce soit dans vos bandes dessinées, dans vos peintures, dans vos sculptures. Après votre trilogie de romans graphiques qui sont devenus cultes sur la montagne, Elle froide, Le loup et La dernière reine, qui ont remporté un grand succès, votre plus grand succès de BD, c'était ces dernières années. Eh bien, vous publiez votre premier livre de littérature, Au cœur de l'hiver, aux édition Les Étages, édition que vous avez fondée avec votre femme. Et c'est un récit autobiographique. Vous racontez comment, à l'automne 2020, en pleine crise du Covid, vous décidez d'aller passer l'hiver dans un chalet de haute montagne que vous venez d'acheter quelques mois plus tôt. Un chalet complètement isolé, coupé de la vallée, coupé de tout. Il s'appelle Les Étages. Et vous y vivez plusieurs mois à l'écoute de vos sens, de la beauté de la nature, mais aussi de ses cruautés. Vous dites au monde, le seul intérêt d'être sur Terre, c'est d'être émerveillé par la beauté de la nature, voir une marmotte, voir un chamois, on y revient. C'est pour ça que je vis ici et que je retourne si peu dans la ville. Alors d'abord, ça va, vous n'étouffez pas trop là ce matin, dans le petit studio de la maison de la radio, dans la ville, dans Paris. Vous suffoquez pas ?
Déjà, j'ai l'habitude de la ville. J'ai vécu 20 ans à Paris et 10 ans à Berlin, donc je connais. Et non, j'ai du plaisir à voir la ville, mais c'est vrai que j'ai un petit peu décroché, quoi. Je me suis mis au blanc
et aux cimes. D'abord, pourquoi ce choix de prendre la plume ? Pourquoi écrire quand jusque-là vous dessiniez ? Les mots avaient plus de sens pour raconter cette histoire-là que les images ?
Je me suis posé la question, mais en fait, je pense que ça aurait fait une bande dessinée assez verbeuse et pas bonne. Les descriptions avaient de l'importance. Il y a beaucoup de psychologique là-dedans, le rapport à la nature. Et je pensais que la littérature, c'est un grand mot, je voyais pas trop d'autres solutions. Alors que, par exemple, La dernière reine, ça aurait fait un roman moyen, alors que ça fait une grande bande dessinée.
Les choses se divisent naturellement. Et bien, vous raconter le plaisir que ça a été pour vous d'écrire, de prendre la plume, alors même que vous êtes dyslexique enfant.
Ah oui, quand j'étais enfant, moi, dans les années 60, dyslexique, j'ai failli rentrer chauffeur-livreur. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas me faire rentrer en sixième, donc j'ai passé à travers les gouttes. Et donc, pour moi, c'était absolument impossible d'écrire, quoi. C'est Christine qui m'a dit « tu devrais essayer ». Et je me suis dit « si ce qu'on appelle le flow en écriture, si ça rentre, je ferai le livre. Si j'ai le problème de la page blanche, je ne le ferai pas ». Et puis j'ai commencé à écrire une phrase, en a amené une autre.
Christine, c'est votre femme. On va y venir parce qu'il y a beaucoup question d'amour dans ce livre. Vous racontez d'abord comment le rapport au temps change quand on est dans un chalet isolé en montagne. Le silence qui nous entoure est l'écorce de nos journées. On retrouve un peu la vie des anciens, coupée de tout, et l'existence prend alors une toute autre saveur. Quel est le rapport au temps quand on est là-haut ? Est-ce qu'il s'élargit ou est-ce qu'il se rétrécit ?
Déjà, il y a un rapport au soleil, en fait, chez nous, parce qu'on a très peu le soleil, on a une demi-heure par jour. Donc, on voit bien que le temps est rythmé par la courbe du soleil. Donc ça, déjà, c'est une chose qu'on a en soi. Et puis tout a de l'importance, c'est-à-dire par exemple le matin on se réveille, s'il neige beaucoup, si c'est des choses qui ont beaucoup d'importance. Le rapport à la nature elle-même, c'est-à-dire qu'elle pèse sur la maison. Trop de neige, c'est dangereux, par exemple.
Il faut avant tout chercher à se nourrir et à se réchauffer, vous écrivez encore. Ici, en hiver, quête de nourriture et quête de chaleur sont le lot commun des animaux comme des humains. Nous ne dérogeons pas à la règle. Nos deux principales activités sont le maintien du feu et la cuisine. Et vous précisez, bon, faut aimer les pommes de terre, les choux et les œufs. Parce que c'est globalement ça que vous mangez.
Ben, globalement, la première année, on avait pris plein de choses qu'on avait achetées dans le commerce, et puis la deuxième année, j'ai fait moi-même mon jardin, et je me suis aperçu que ce qu'on aimait manger, c'était ce qu'on faisait pousser soi-même. Je sais pas, il doit y avoir un rapport entre ce que la terre produit et ce qu'on a envie. Il fait froid, donc des pommes de terre, c'est bien, le chou, c'est bien aussi, et puis les œufs, on a des poules. Il y a une chose que j'adore, c'est quand je sors qu'il fait moins 20, et que je rentre avec un œuf chaud dans la main, il y a une espèce de magie.
Ça doit être un bonheur. Et puis les tomates, vous avez fait une serre, c'est ça, pour cultiver vos tomates?
Voilà, on a une serre et les tomates, faut savoir qu'elles n'arrivent pas au rouge, donc après on les met avec des pommes. Parce que quand on met des tomates vertes avec des pommes, elles deviennent rouges. Donc on mange des tomates jusqu'à Noël.
Alors j'avais reçu Cédric Sapin de Four, vous savez, cet alpiniste qui a écrit le best-seller de l'année dernière, le best-seller surprise que personne n'attendait, Son odeur après la pluie, ou raconter son histoire d'amour avec son chien. Il est aussi alpiniste, il vit aussi en montagne. Et il raconte que l'écueil, c'est d'idéaliser la nature, et raconte comment son chien lui a appris à regarder la nature. Écoutez.
Quand on est en montagne, on ne cesse de discuter avec la neige, avec le rocher, avec le vent, pour une question simplement d'intégrité physique, de survie. Mais on n'échappe pas à cet écueil qui est de considérer la nature soit comme une carte postale à selfie, très avantageuse, soit comme une matière, comme un terrain de jeu, qui est une expression insupportable, comme si la nature était un stade, soit comme une cure psychanalytique. On va en nature pour aller bien. Mais la nature, elle n'est pas à notre service. La nature, elle existe très bien sans nous, je vous assure. Et un chien, il vous rappelle en fait ce rapport. Il vous rappelle et il horizontalise ses liens avec les éléments naturels, là où on a tendance à verticaliser.
La nature n'est pas une carte postale, la nature n'est pas une cure psychanalytique. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, et puis même, moi j'ai beaucoup fait d'alpinisme. Depuis que j'habite en montagne, ça me paraît absurde d'aller grimper sur les sommets. C'est-à-dire que je suis un peu comme les Sherpas, par exemple les Sherpas qui amènent des gens au haut de l'Everest, ils rêvent que d'une chose, c'est que leurs enfants soient médecins, avocats ou dentistes. Pour eux, aller emmener des gens en haut de l'Everest, c'est... Et moi c'est un peu pareil, je l'ai fait, j'y monte, et je trouve que la montagne en plus c'est pas très belle au sommet, parce qu'elle écrase tout, le sommet écrase tout, il faut être un peu en dessous pour l'apprécier.
Ah ouais, il faut être un peu en dessous du sommet pour l'apprécier.
Oui, parce qu'on voit, il y a une perspective en dessus, il y a la perspective en dessous. Au sommet, c'est voilà, les gens qui prennent le téléphérique qui arrive au sommet, hop, on regarde et on s'en va quoi.
Mais c'est vrai que votre livre m'a fait penser à celui de Sapin de Four parce qu'on voyage avec vous et on est tiré. C'est ce voyage en montagne au cœur de l'hiver, comme le très beau titre du livre. On oublie en fait, on oublie notre journée, on oublie notre quotidien. Hier soir, je lisais votre livre et c'est vrai qu'on a envie de partir en montagne avec vous, un peu comme quand on lit le bouquin de Sapin de Four. Et pourtant, vous dites la nature, elle est hostile. Le grand danger qui a emporté deux de vos voisins randonneurs, le grand danger qui revient tout le temps dans vos pages, c'est les avalanches. Parlez-nous des avalanches et racontez-nous cette scène où à un moment vous êtes, 5 minutes avant, vous êtes à l'extérieur du chalet et puis finalement vous rentrez et là l'avalanche arrive. Ça va très vite et c'est un tsunami quoi. Vous parlez d'un léviathan, vous parlez d'un dragon quand vous êtes sous une avalanche.
L'avalanche, au départ, pour moi, la neige, je suis montagnard, mais je suis de Grenoble, donc pour moi, c'était le ski, c'est joli, ça nettoie la... Et puis, la première année là-bas, j'ai vu que c'était l'avalanche, en fait. Et donc, cette histoire, c'est effectivement, on a eu une avalanche qu'on peut appeler une avalanche scélérate, c'est-à-dire qu'elle devait faire 200 mètres de large sur 20 mètres de haut. Et d'habitude, je fais je pelte pour aller jusqu'aux poubelles. Et ce matin-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de sentiment comme les animaux qui montent, et je me suis dit, faut pas sortir. Et effectivement, elle a été assez monstrueuse, elle a arraché toute la forêt.
Combien de temps ça dure quand la coulée de neige arrive ?
C'est très rapide, ça doit durer une minute peut-être. Mais d'un seul coup, on voit que tous les arbres se plient, certains sont arrachés par les racines.
Et là, vous vous dites, la maison va exploser.
J'étais comme un lapin dans des phares d'une voiture. Je regardais. Par contre, Christine elle est descendue direct à la cave. Elle criait, viens, viens, viens. Moi, j'étais là, je regardais par la fenêtre. Je trouvais que c'était un spectacle terrible. Et puis, ça s'est arrêté. Et la maison, elle était bien construite parce que ça s'est arrêté à 50 mètres, je crois.
Les animaux sont omniprésents dans votre œuvre. Vous guettez les oiseaux, vous bivouaquez dans l'espoir d'observer les loups, vous bravez les avalanches pour récupérer un médicament, pour sauver une renarde malade qui hurlait de douleur parce qu'elle avait la gale. Racontez-nous cette scène que vous racontez aussi dans le livre qui est hyper belle.
Bah, c'est-à-dire que je laisse les carcasses de poules plus loin pour la nourrir, enfin, nourrir un renard. Et puis un jour, il y avait deux gros corbeaux. Et puis je vois cette renarde qui arrive et qui les fait fuir. Et elle me regarde. Et en fait, elle avait les yeux opaques de souffrance. Elle était littéralement mangée par la gale. C'est-à-dire, elle avait plus de poils sur le tout le dos. Et donc, je suis assez compassionnel. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je la soigne. Donc, il y a Internet là-haut quand même, j'ai demandé...
Mais c'est ce que j'allais vous demander, vous avez Internet là-haut ?
Oui, on a Internet, ouais. Donc j'ai demandé ce qu'il fallait faire, on me l'a dit, et donc j'ai été chercher...
Dans la vallée, un médicament.
Voilà, et en plus c'était pas le meilleur moment pour descendre, donc je me suis demandé ce que je faisais sur ces trousses avec des avalanches pour soigner une...
Une renarde qui était en train de crever,
finalement,
que vous connaissez
on n'avait pas de relation particulière.
Et alors,
j'ai mis ce produit dans du blanc de poulet et j'ai attendu, puis j'ai vu que ça allait s'y passer et puis effectivement, je l'ai vu 2-3 semaines après, ça commençait à repousser et puis.
Et puis ensuite,
elle a fait des petits et puis cette année, elle m'a bouffé une poule.
Ah
oui. Quoi, elle a pas de.
Elle est un peu ingrate, la renarde. Bon, ce livre, c'est aussi une histoire d'amour avec votre femme, qui vous a, on a l'impression, appris à vivre, appris à aimer la vie. Vous écrivez « J'ai bientôt 64 ans, une femme beaucoup plus jeune que moi est allongée à mes côtés. Elle dort, confiante au milieu de nulle part, hors du temps, dehors, un froid intersidéral en serre le refuge de son étreinte. Ma vie n'a été jusqu'à aujourd'hui qu'une longue résistance, résistance d'enfance, résistance d'adolescence. Je suivais un destin de brise-glace et maintenant je sens sa chaleur, j'entends sa respiration, la glace qui m'empêchait de vivre vient de fondre au cœur de l'hiver. » C'est très beau. Et voilà, c'est ça aussi ce livre.
C'est surtout ça, je crois, ouais. En fait. Je pense que pour ce genre d'expérience, on vit pendant 3 mois avec quelqu'un, 4 mois, au milieu de nulle part. Il faut être assez sûr de sa relation.
On peut s'entretuer, vous dites d'ailleurs, elle avait
Shining,
peur, elle
dit,
voilà, c'est ça, Shining, ça peut être le cauchemar. Ouais. Elle vous disait, t'es gentil, moi, 24 heures sur 24 avec toi pendant 3 mois sans personne,
non.
Ça va pas le faire.
Ouais, ben ça l'a très bien fait, et là ça fait la 4e année qu'on passe l'hiver là-haut. Ça peut être la dernière parce qu'on a ouvert une galerie à Grenoble, donc peut-être que je m'en occupe un peu plus. Mmh. Mais
qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette femme ?
L'amour, c'est le mot suffisant. Je pense que je l'avais vraiment jamais vécu, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui remplit. Je pense que l'existence, quelqu'un qui sait pas voir la beauté et qui a pas connu l'amour, il faut qu'il fasse un tour. Je pense qu'il a.
Votre différence d'âge, vous en parlez souvent.
Bah, au départ, au départ, ça, c'était un frein pour moi. Je voyais bien qu'il se passait quelque chose, mais comme je le dis, je pensais. L'affection, des choses comme ça. Enfin, bref.
Et puis voilà. Les montagnes, vous les avez vues changer sous l'effet du réchauffement climatique. Depuis mon enfance, je vois les glaciers disparaître les uns après les autres. Les grands couloirs de neige qui faisaient l'orgueil des écrins sont à l'agonie. Le couloir du diable n'est plus qu'un désert, n'est plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, comme un signe des temps, c'est la poussière du désert qui se dépose ici. Rien ne semble arrêter ce mouvement inexorable. Comment on le voit et comment on le vit, la disparition des glaciers quand on est en haut, quand on est en montagne ? Parce que nous, on l'entend à la radio, on ne le voit pas, ou on peut le voir quand on y va une fois par an. Mais vous qui vivez là-bas, vous le voyez tous les jours, en fait.
Je le vois tous les jours, et puis surtout, en tant qu'alpiniste, j'avais une relation très proche avec les couloirs de glace, parce que c'est une chose qu'on aime faire, et là, ils n'existent plus. C'est-à-dire, il y avait notamment les plus beaux, le coup de sap, qui est un couloir absolument admirable, il est sec. Alors en hiver, ça ne se voit pas trop, mais en fin d'été, il n'y a plus rien, quoi. C'est des rogatons de glace.
Et vous pensez que la prise de conscience, on avait James Cameron tout à l'heure qui nous disait qu'il ne croit plus dans les politiques, qu'il est ahuri de voir combien il n'y a pas de réaction face à la destruction de la planète. Vous partagez ce sentiment ?
Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de... Moi, je pensais... Je suis commencé dans l'écologie avec Dumont. Donc on était en 74. Je pensais que... En 2024, ça serait réglé. Visiblement, non. Donc, je sais plus quoi en penser. Moi, je fais de mon côté. J'essaie de le moins blessant pour la planète. Mais, et puis d'en parler avec vous, par exemple. Mais ça s'arrête là.
Hein. Les impromptus pour terminer. Vous répondez sans trop réfléchir. Victor Hugo ou Jules Verne ?
Victor Hugo.
Astérix ou Tintin ?
Bizarrement, Astérix.
Pourquoi bizarrement ?
Parce que Tintin, c'est plus chic. Mais Astérix, ça me fait plus rire.
Goya ou Klimt ?
Goya.
Goya. Actuel ou l'écho des savanes ?
Actuel.
Vous avez fait des dessins pour les deux. Paris ou Berlin ?
Berlin.
Les Alpes ou les Pyrénées ?
Oh, les Alpes.
Qu'est-ce qui vous indigne ?
Ce qui m'indigne, c'est tant de choses, mais on revient, c'est le massacre de la biodiversité pour moi. C'est le fait que nos voisins sont massacrés, quoi. J'aime pas ça.
Vous votez ?
J'ai voté, oui, mais là, je ne vote plus.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Il faut faire un choix. Liberté en tant que montagnard.
Et Dieu dans tout ça, pour terminer, parce que vous parlez de quête spirituelle possible, plus possible, en haut des sommets.
Je ne suis pas athée.
Vous n'êtes pas athée. Au cœur de l'hiver, très beau livre de Jean-Marc Rochette qui nous fait voyager donc au sommet, dans la nature. Et c'est très beau. Et c'est donc dans cette nouvelle édition, les étages éditions que vous avez créées avec votre femme. Merci et très
belle
journée.
Merci beaucoup.